Chapitre 7. Tatillot ou clairvoyant. Donner la dixième partie du fenouil et négliger la bonté. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. L'esprit religieux se concentre sur le secondaire et néglige le prioritaire. Il légifère sur le détail et oublie la vision d'ensemble. Jésus, au contraire, s'efforce de constamment démontrer l'esprit de la loi. Il souligne qu'il y a des enseignements plus importants que d'autres. Dieu n'est pas honoré par le légalisme, mais par un cœur juste, bon et fidèle. Nous avons été tissés dans sa main. Il nous aime, nous estime et nous protège. Jésus nous le présente comme un être bon, clairvoyant, cohérent, aimable, pratique. Les pharisiens font des comptes d'apothicaires. Ils paraissent compliqués, entêtés, étriqués dans leurs idées. Paul, parlant de son passé, déclare « J'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Acte 26, verset 5. Cela les conduit à de dramatiques erreurs de jugement. Aimer l'argent leur paraît naturel, mais aimer un homme au point de le guérir un jour de sabbat, non. Que des marchands fraudent jusque dans l'enceinte du temple ne les dérange pas. Mais que des enfants y crient « Hosanna, au fils de David !» Oui. Et quand Jésus déclare au paralytique qu'il est pardonné, ils se disent en eux-mêmes « Cet homme blasphème !» Conformément à Luc 6, verset 7, Matthieu 21, verset 15, Matthieu 9, verset 3. Ils sont aveugles au sujet de ce qui compte aux yeux de celui qu'il croit honorer. Au travers d'eux, Dieu est perçu comme tatillon, dur, confus, inamical. L'homme spirituel. Jésus a un regard qui embrasse le temps et l'espace. Il contemple l'humanité entière et son histoire. Il insuffle par ses enseignements une dimension universelle à ceux qui l'écoutent. Ces déclarations prennent un relief particulier si nous réalisons qu'elles ont été prononcées à une époque où le monde connu n'allait pas beaucoup au-delà de l'Empire romain. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 26, verset 13, 19, verset 8, Jean 8, verset 58, Matthieu 28, verset 18 à 20, 25, verset 32. Jésus parle avec une pleine autorité de la création du monde, du jugement dernier et de la perdition. Il fait allusion à Jonas, à Abraham ou à Salomon, comme à des hommes qu'il connaît personnellement. Il nous révèle l'invisible, les anges, le ciel, l'éternité, le royaume de son Père. Il n'est pourtant pas grandiloquent. Sa vision est si pertinente, complète et pénétrante, que les huissiers envoyés par les pharisiens pour l'arrêter reviennent bredouilles, disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jean 7, verset 46. Les mots tels que « peut-être »,« Éventuellement. J'hésite. Ne font pas partie de son vocabulaire. Ces paraboles dépeignent des vérités complexes de manière profonde et concise. Jésus reste pourtant à l'écoute de chacun. Il est capable de changer d'avis. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Matthieu 15, verset 28. Notre société aussi filtre le moucheron et avale le chameau. Dans une file d'attente à la caisse d'un supermarché, un enfant, assis dans un caddie, donnait des coups de pied à une personne âgée qui se trouvait à sa proximité. Une cliente, indignée, dit à la mère: Qu'attendez-vous pour corriger votre enfant? Celle-ci répondit: Cela ne fait pas partie de l'éducation que je désire lui donner. C'est à lui de découvrir la meilleure voie pour sa vie. Derrière elle, un homme avait suivi le dialogue. Il saisit un yaourt, l'ouvrit et le retourna sur la tête de la mère en déclarant: C'est aussi comme cela que j'ai été éduqué. Ils rejetèrent les lois de Dieu, ils s'attachèrent à des dieux inconsistants et devinrent eux-mêmes tout aussi inconsistants. Deux Rois 17, verset 15. Dans certains pays, la loi autorise une adolescente de 14 ans à avorter sans le consentement de ses parents et sans les avertir, mais elle lui interdit de s'acheter une bière avant l'âge de 18 ans. Je ne pense pas qu'il faille vendre de l'alcool aux mineurs, mais j'affirme qu'il est plus grave de mettre à mort son bébé à naître que de boire une bière. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Matthieu 15, versets 19 à 20. Quand le peuple de Dieu confond les moyens et les buts. Le sabbat a été fait pour le bien de l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Marc 2, verset 27. Au sein du monde chrétien, la confusion règne trop souvent entre les moyens et les buts. Aujourd'hui, deux domaines y prennent une place immense, les bâtiments d'église et les réunions. Que faut-il en penser? Je ne crois pas trahir le raisonnement de Christ en disant: Les bâtiments ont été faits pour le bien de l'homme. L'homme n'a pas été fait pour les bâtiments. Et encore, les réunions ont été faites pour le bien de l'homme. L'homme n'a pas été fait pour les réunions. Overdose de réunions et peu de vrais débouchés. Grossir au lieu de grandir. Je rencontre nombre de chrétiens fidèles, mais déboussolés par une overdose de réunions, pourtant intrinsèquement valables. Comment cela est-il possible? L'Écriture nous avertit: Gorge rassasiée méprise le miel. Proverbe 27, verset 7. Se rassasier de miel et s'en trouver bien portant, chacun peut le comprendre. Ce que beaucoup ont du mal à saisir, c'est qu'une indigestion de miel est également possible. Après en avoir abusé sur une longue période, le phénomène suivant se produit. Bien que la Bible nous affirme qu'il soit bon, nous ne le supportons plus. Que faire? Il suffit simplement de rééquilibrer son absorption et sa dépense énergétique, cesser de s'engoinfrer alors que nous sommes déjà rassasiés, gros et inactifs. Notons qu'un nourrisson, contrairement à un adulte, mange jour et nuit. Ainsi en est-il des nouveaux convertis et des églises naissantes. Mais si le régime ne s'adapte pas avec l'âge, c'est l'indigestion assurée. Les bienfaits du miel se déploient dans la pratique, c'est-à-dire dans notre service au quotidien. Famille, métier, détente, etc. Sans cet équilibre, il nous arrive ce que Paul a dénoncé. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 1 Corinthiens 11, verset 17. Je me souviens à ce propos d'une équipe d'évangélisation réunie à Lausanne à l'occasion du 700e anniversaire de la cathédrale. Nous étions pleins d'élan, dans l'enthousiasme des premières années du mouvement Jesus People. Le pasteur de la cathédrale nous avait demandé d'évangéliser et d'inviter la population aux festivités. Nous nous y sommes attelés de bonne grâce, un matin ou deux, mais très vite, lors de la réunion d'équipe, certains ont suggéré que ce programme n'était pas très spirituel. Selon eux, ce pasteur, au demeurant bien sympathique, ne savait pas ce qui était vraiment efficace. Il valait mieux rester en prière entre nous, confesser nos péchés et ceux de la ville, et combattre les mauvais esprits. Nous avons ainsi abandonné les activités extérieures pour passer nos journées enfermées dans la bibliothèque du centre de Djem. Si les premières heures furent bénéfiques, progressivement l'atmosphère devint irrespirable. Révélation sur révélation, suffisance, orgueil spirituel, sans parler de l'épuisement à rester claustré au lieu de servir humblement, en furent les raisons. Rester coincé sur une chaise à assister à d'interminables réunions est plus dû à la formidable capacité d'adaptation de l'être humain qu'à un appel divin. Au bout de quelques jours de ce régime, le responsable, à bout de nerfs, menaça de dissoudre purement et simplement l'équipe. Comme jeune équipier, j'avais suggéré à l'une de mes responsables de reprendre l'évangélisation. Mais elle m'avait fait comprendre, sans ménagement, que cette idée était charnelle et de toute évidence due à mon immaturité. Aujourd'hui, je crois qu'une spiritualité déséquilibrée, teintée de crainte et de vanité, a terni et presque anéanti une équipe d'une trentaine de jeunes, pourtant plein de feu pour Dieu. L'erreur principale a été de remplacer la partie pratique de la journée par des réunions. Être modéré en toutes choses s'applique également aux rassemblements en tout genre et autres comités. Comme le diététicien qui conseille l'équilibre d'une saine nourriture et de saines activités, les responsables spirituels devraient veiller à faire de l'application de la parole une nécessité absolue. La vie hors réunion n'est pas une attente plus ou moins stérile de la prochaine rencontre, mais l'occasion unique de vivre en fils et filles du royaume. Si la seule ambition d'un berger est de gaver ses brebis au sein de l'enclos, elles finiront ballonnées pour les unes, malades et misérables pour les autres, sans parler de celles fatiguées et déboussolées par les indigestions qui erreront déçues de tout. Un homme en bonne santé se réjouit d'être invité à un repas, mais non un malade. Les chrétiens souffrant de surdoses de réunions ne peuvent plus se réjouir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de rassemblements particuliers, quand bien même ils seraient inspirés par Dieu. Leur saturation devient un frein énorme à toute initiative pourtant salutaire. Il ne suffit pas de répéter sans cesse que l'Église c'est nous et non un bâtiment. Il faut le vivre. Dieu n'a pas créé un bâtiment pour nos premiers parents, mais un jardin. Il est nécessaire de redonner la priorité à Dieu et à ceux qui portent son image, c'est-à-dire à une spiritualité qui respire la liberté, la créativité, l'originalité et produit une lumière visible et bienveillante pour la société qui nous entoure. L'emphase mise sur nos églises, temples et autres salles n'a qu'un appui biblique limité. Le temple de Jérusalem ne fut construit que plusieurs siècles après l'arrivée des Israélites en Canaan. Sa plus grande salle ne mesurait que 20 mètres de long sur 10 de large et n'était en aucun cas prévue pour la foule. Les synagogues, construites par la suite, ne sont pas le fruit d'un commandement divin. Elles font partie du descriptif des textes du Nouveau Testament et non du normatif. Dans vos synagogues, aucun verset des Écritures n'exhorte à construire des lieux de réunion, et l'Apocalypse nous précise que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple, car Dieu sera son temple. Les bâtiments seraient-ils à proscrire? Non. Ne devons-nous pas avoir des lieux pour nous réunir, préserver une certaine intimité, être à l'abri de la pluie, du vent, du soleil ou du froid? Oui, bien évidemment. Ne pouvons-nous les consacrer au Seigneur? Certainement, car si les cieux des cieux ne peuvent le contenir, ils considèrent cependant avec bienveillance ce que nous lui offrons. Cela dit, Le problème est que nous avons donné à ces lieux une autorité et une signification exagérées. Nos murs nous isolent et le diable en est très satisfait. Jésus, en parlant de boisseau, a expressément enseigné que ses disciples ne devaient pas se cacher, mais éclairer et saler la terre. Les tout premiers chrétiens à Jérusalem se retrouvaient dans la galerie à colonnes de Salomon, un endroit abrité mais non fermé. Leur chant, leur message et surtout leur vie sainte produisaient deux effets en apparence contradictoires, mais tellement riches en enseignements pour nous. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, et pourtant le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyait au Seigneur et s'ajoutait à leur groupe. Acte 5, versets 13 à 14. La présence de Dieu en cet endroit forçait le respect de chacun, tout en attirant puissamment ceux qui voulaient le rencontrer. Dans les pays chauds, une rencontre sous un manguier est, à mon avis, infiniment plus sympathique que celle dans une chapelle sombre et suffocante. Les amis non chrétiens et les amis des amis s'y arrêteront volontiers. Une fois enfermés, avec une pancarte sur laquelle le nom de votre dénomination est inscrit, franchir la barrière pour vous rejoindre est plus qu'intimidant et, pour les membres de certaines religions, formellement interdit. C'est ainsi que beaucoup de communautés connaissent, à leur début, une forte croissance dans la joie et la simplicité, puis stagnent et se fanent dès que leur chapelle est construite. Leur visibilité et leur accessibilité sont des éléments contagieux, missionnaires, alors que leurs murs communiquent à la population « club pour initier ». S'aimer, se reconnaître comme membre et être fidèle à une communauté locale n'est pas obligatoirement lié à un bâtiment d'église. La création tout entière est le lieu de vie et d'adoration idéal. Certains diront « Et quand il pleut ?» Quand il pleut dans ces pays, la plupart des chrétiens ne se déplacent pas ni sous le manguier, ni à l'église. Quand il pleut, pourquoi ne pas se retrouver chez deux ou trois anciens, c'est-à-dire dans les maisons, comme le faisaient les premiers chrétiens? Bien entendu, quand la communauté grandit encore, le besoin d'un lieu plus vaste devient légitime. Il faudrait cependant que la force de la communauté, son rayonnement et ses amitiés extérieures, produisent un élan tel que la structure choisie ne puisse plus l'endiguer. Le lieu, loué ou construit, sera ainsi perçu dès son origine comme un simple outil et le restera. On évitera à tout prix d'en faire un monument fermé à nos concitoyens. À ce propos, considérons le dérapage qui s'est produit entre l'inauguration du temple par le roi Salomon et l'attitude de la foule qui, plusieurs siècles plus tard, soupçonne Paul d'y avoir introduit un grec, et essayons pour une fois d'apprendre de l'histoire. Si alors un étranger, quelqu'un qui ne fait pas partie d'Israël, ton peuple, vient d'un pays éloigné pour te prier dans ce temple, toi, Seigneur, dans le ciel où tu habites, sois attentif et accorde-lui ce qu'il demande. Israélite, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tous un enseignement dirigé contre le peuple d'Israël, la loi de Moïse en ce temple. Et maintenant, il a même introduit des non-juifs dans le temple, et ainsi rendu impur ce saint lieu. 1 Rois 8, verset 42, Acte 21, verset 28. De toute évidence, Salomon avait, sur cet édifice, un regard spirituel, celui de Dieu, alors que la foule, animée d'une grande violence, n'avait plus qu'un regard religieux, celui des hommes. Dieu honorera la prière de Salomon, mais devra protéger Paul d'un lynchage. Voici deux expériences concernant des choix de lieux de rencontre que j'ai vécues de près. La première est discutable et la seconde réussie. Un déplacement mitigé. Une famille de mon village avait ouvert sa maison pour accueillir de jeunes musiciens chrétiens. Très vite, des frères et sœurs, leurs amis et des jeunes de diverses dénominations s'y sont joints, formant un groupe chaleureux et très dynamique dont la musique n'était qu'un aspect. Dans une atmosphère détendue et joyeuse, nous avons vécu beaucoup de rencontres marquées de la présence de Dieu. Le contexte familial et notre enthousiasme contagieux ont fait que beaucoup de visiteurs et de connaissances se sont ajoutés. Nous étions serrés comme des sardines et heureux comme des fous. Nous avons alors loué un ancien magasin afin de nous y retrouver et y avons créé, pour la deuxième partie des soirées, un café-bar d'évangélisation. L'idée était certainement excellente. Nous l'avons meublé et décoré avec grand soin et avons offert gratuitement nourriture et boissons. Pourtant, sans que nous le réalisions, la barrière physique et psychologique pour nous rejoindre était devenue bien plus difficile à franchir. En effet, ce n'était plus le salon d'une sympathique famille qui nous réunissait, mais un lieu spécialement affecté à notre groupe et dont le nom apparaissait en grand sur la vitrine. Le milieu naturel et la chaleur du foyer avaient disparu. Une partie des jeunes, pour diverses raisons, comme la crainte de s'afficher ainsi ou le malaise face à cette façon de faire, ne sont plus venus. Les hôtes et les clients, réellement extérieurs, tant espérés, se sont fait rares. Ce qui devait agrandir le groupe l'a rétréci, et quelques années plus tard, il s'est éteint. Avec le recul, je me dis qu'il aurait peut-être fallu alterner nos soirées, entretenir le feu de nos rencontres plus intimes, tout en organisant entre deux, au café-bar, des soirées d'évangélisation ciblées et bien préparées, concerts, films, débats, jeux, orateurs, etc. Un déplacement réussi. Le centre de GEM à Lausanne se situe sur les hauteurs de la ville. Nous y avons rapidement ouvert nos portes au public le dimanche soir. L'orateur, invité dans le cadre de nos écoles, y prenait la parole. La salle de cours, puis le couloir, le salon attenant, la bibliothèque au sous-sol, retransmission par vidéo, et finalement les escaliers se sont remplis de monde. Tout cela ne donnait guère plus de 150 places, toutes positions confondues. Entre-temps, le pasteur du village voisin nous a demandé ce que nous envisagions de faire pour les jeunes de la région. Don Stephens, alors directeur du centre, a négocié la location du magnifique auditorium de l'école hôtelière situé à 100 mètres de chez nous. Nous nous sommes ainsi retrouvés tous les 15 jours à 400 personnes venues de toute la région pour des soirées de louanges et d'enseignements mémorables. Les années ont passé et j'en suis devenu responsable. Un dimanche, alors que la salle était, comme à l'accoutumée, pleine à craquer, je me suis demandé si nous ne pourrions pas déplacer les tables où nous offrions thé et biscuits du fond de la salle dans la vaste hall d'entrée. 100 places furent ainsi gagnées et ajoutées pour la fois suivante. Et le miracle eut lieu. Dès ce soir-là, 500 personnes assistèrent à nos rencontres. La question qui en découla tint donc de la pure logique. Pourquoi ne pas louer de plus grandes salles? Cela impliquait un déplacement d'une dizaine de kilomètres. En ville, la salle du cinéma du Palais de Beaulieu de 700 places se remplit d'emblée, au point que les pompiers de service n'étaient pas rassurés de voir des jeunes assis par terre dans les couloirs. Les gens accouraient de plus de 50 kilomètres à la ronde, représentant une trentaine de dénominations, traditionnelles ou non. Chaque fois qu'un appel à la conversion était fait, une douzaine de jeunes, et moins jeunes, y répondaient. De très nombreuses personnes furent affermies, d'autres s'engagèrent dans la mission à court et à long terme. L'unité du corps de Christ dans toute la région en fut consolidée. Nous avons loué et rempli diverses autres salles de ce complexe, contenant jusqu'à 1400 places et plus, ce qui, en Suisse, et pour des rencontres régulières, est inhabituel. Des soirées similaires se sont alors développées dans de nombreux autres endroits, jusqu'au-delà des frontières, et plusieurs se poursuivent à ce jour. Dans cette magnifique aventure, les bâtiments et les salles sont restés serviteurs. Toute notre énergie s'est centrée sur Dieu et son plan pour les hommes. Les offrandes recueillies ont certes couvert les frais de location et d'orateurs, mais elles ont surtout abondamment béni des centaines d'œuvres sur toute la surface du globe. Pour terminer ce témoignage, je vous livre ce qui, en plus des lignes qui précèdent, contribue au rayonnement de ces rassemblements. Les orateurs sont choisis avec grand soin. Les traducteurs éventuels doivent être qualifiés spirituellement et intellectuellement. La louange doit être profonde, mélodieuse et variée. Les annonces sont sélectionnées. Elles sont incisives et brèves. Les témoignages et les présentations diverses doivent être impérativement intéressants et concis. L'offrande est transparente. Elle honore les donateurs et stimule la joie de donner. Les horaires sont respectés. Les ministères exercés se prolongent hors programme. Le tout se déroule en moins d'1h40, ce qui favorise une communion fraternelle informelle en fin de soirée. Des outres neuves pour le vin nouveau. Je pense que notre réflexion doit se poursuivre et s'étoffer si nous voulons remplir le mandat que Christ nous a laissé. À son exemple, nous pouvons rejoindre les foules au bord des lacs, de la mer, sur les collines, dans les rues et autour des repas. Une rencontre de prière au bord d'une rivière fut l'occasion pour Paul d'amener Lydie à Christ, conformément à Actes 16, versets 13 à 15. Les groupes de maison, les cours alpha, les petits déjeuners féminins, les célébrations régionales, nationales et autres repas d'hommes d'affaires démontrent que les structures vivantes, adaptées au service des convives, ont leur importance. Certaines communautés offrent une fois par mois café et croissants avant leur rencontre dominicale. Ce temps est orienté vers les invités. D'autres organisent un service le vendredi soir pour ceux de plus en plus nombreux qui s'absentent le week-end. D'autres encore partagent le même édifice entre plusieurs dénominations ou langues différentes afin d'alléger leurs charges financières et réorienter leurs priorités. Le dimanche, dans la plupart des pays occidentaux, des millions de personnes sortent pour se promener ou pratiquer un sport de détente. Qui se lèvera pour les atteindre? Quelle église locale les rejoindra pour leur apporter sel et lumière? Une communauté monument qui peu à peu devient semblable à son bâtiment et ne fait que s'y enfermer risque d'y mourir. Les nombreux cas qui nous entourent, de près ou de loin, devraient nous inciter non à la polémique, mais à d'humbles changements. Mon but n'est pas d'écrire contre les bâtiments. Ils sont un précieux patrimoine. Il en est de splendides et ils peuvent témoigner du dynamisme passé et présent d'une communauté. Mon objectif est de souligner le décalage qui existe entre leur place sur le plan biblique et celle qu'ils occupent dans nos mentalités, et le piège que cela peut représenter. La fierté du berger doit venir de ses fidèles, non du clocher ou des orgues. Les liens qui les unissent sont l'amitié, la complémentarité, l'unité de l'esprit, non des murs. Notre cœur sera toujours lié à notre trésor, que ce dernier soit légitime ou non. Comme beaucoup l'ont lu dans le livre de Lauren Cunningham, « Est-ce bien toi, Seigneur ?» quand il raconte comment le premier bateau de Jem était devenu une idole plutôt qu'un instrument de service, ainsi peut-il en être de nos bâtiments. Au lieu de servir, ils peuvent asservir. Au lieu d'accueillir, ils peuvent cloisonner. Au lieu d'embellir, ils peuvent devenir sujets d'orgueil et de domination. Quand ils engendrent des intérêts bancaires et d'autres fardeaux administratifs lourds à porter, des années de ministère, des multitudes de réunions et de comités y sont consacrés. Nombre de responsables sont alors contraints de veiller jalousement sur chaque offrande et à envoyer des circulaires par milliers, non pour sauver des hommes, mais des pierres. Celles-ci nous contrôlent et nous incitent à une piété qui sent le renfermer. Nous nous amassons ainsi des trésors terrestres qui s'effritent, vieillissent, rouillent et sont parfois volées ou détournées de leur fonction première. Il ne suffit pas de répéter sans cesse que l'Église, c'est nous, et non un bâtiment. Il faut le vivre. Les bâtiments sont de bons serviteurs, mais ils sont de très mauvais maîtres. La plus belle nef ne pourra jamais rivaliser avec un coucher de soleil, ni la plus belle fresque avec un arbre en fleurs.